Radio Orient présente Pluriel. Radio Orient présente Pluriel.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel, Karim Amelal, ancien ambassadeur de la France pour la Méditerranée. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes aussi écrivain, maître de conférences à Sciences Po Paris. Vous venez de quitter votre mission d'ambassadeur délégué interministériel pour la Méditerranée. Vous n'avez donc plus de devoir de réserve, ce qui est plutôt bien pour nous, pour les auditeurs. Nous reviendrons bien entendu sur les enjeux qui lient les deux rives, nord et sud. Mais d'abord, la guerre entre Israël et l'Iran. Il y a un soutien de principe de la France à Israël, selon les mots du porte-parole du Quai d'Orsay, Christophe Lemoine, ce mardi matin chez nos confrères de France Info. Êtes-vous d'accord avec cela et comment l'expliquez-vous ?
C'est un soutien de principe, vous le rappelez, c'est important parce qu'il n'y a pas de soutien opérationnel à cette intervention unilatérale qu'Israël mène actuellement en Iran. Bon, je comprends évidemment les raisons de ce soutien de principe. Israël est l'allié de la France dans la région et de façon générale. Néanmoins, il faut bien constater que, comme à Gaza, cette intervention unilatérale, je le redis, c'est une opération qui est contraire au droit international. Donc on ne peut pas d'un côté affirmer la primauté du droit international et dire sans arrêt que le droit international doit s'appliquer coûte que coûte, et d'un autre côté, comme en Iran et comme à Gaza, considérer que le droit international doit être mis entre parenthèses.
Et justement, donc, jusqu'où la France doit-elle soutenir Israël ?
Il faut, à un moment ou un autre, constater qu'Israël, aujourd'hui, est un État qui ne se comporte pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, de façon adéquate par rapport aux principes et aux valeurs que la France et que l'Union européenne tout entière d'ailleurs, et que même le monde occidental érige en normes. Et que vient le moment, et je crois que nous l'avons certainement dépassé, où la France et l'Union européenne et un certain nombre d'autres États qui précisément se retranchent bien souvent derrière la primauté du droit international, doivent prendre un certain nombre de mesures et en tout cas cesser de soutenir de façon inconditionnelle. Ça n'est pas le cas de la France à nouveau, mais en tout cas cesser de soutenir Israël, les opérations que mène Israël et à Gaza et en Iran, étant entendu que la France s'est engagée dans un processus de négociation avec l'Iran il y a de ça plusieurs années. Ça a donné lieu au JCPOA, un accord qui a été endossé par l'ensemble des parties, y compris par l'Iran, y compris par les États-Unis, et que Donald Trump, lors de son premier mandat, a lui-même mis entre parenthèses, ou en tout cas décidé de détruire finalement. Et donc la France, qui s'est engagée dans ce processus, qui s'est engagée dans un processus de négociation, aurait tout intérêt effectivement à y revenir. C'est ce que le président de la République, j'observe, a dit d'ailleurs depuis le Canada, où il se trouve pour participer au G7. Et donc je crois que c'est ce type de processus multilatéral dans le cadre du droit international qui doit prévaloir, et sûrement pas des interventions unilatérales brutales qui d'ailleurs...
Unilatérales, avec un soutien très actif et concret des États-Unis.
Bien sûr, naturellement, qui n'est pas sans limite non plus, puisque on le sait, les principaux sites où l'on dit que l'Iran mène des opérations visant à acquérir la bombe nucléaire, qui sont très souterrains, qui sont à plusieurs dizaines de mètres sous la terre, nécessitent l'intervention des États-Unis, qui n'a pas eu lieu jusque-là. Néanmoins, bien sûr, c'est une intervention qui se fait avec le soutien politique et avec le soutien militaire des États-Unis. Il faut tout simplement regarder ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années. Ça n'a jamais donné de très bons résultats. Ça n'a pas donné de bons résultats en Irak. Ça n'a pas donné de bons résultats en Libye. Et à chaque fois, l'Occident, et on en prend toute notre responsabilité évidemment, c'est pour ça qu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs, nous nous engageons dans le même type de réponse.
Et justement, quand Israël dit vouloir tuer l'ayatollah Khamenei, cela entraînerait-il selon vous la fin des régimes des Mollahs, sachant que vous venez de le souligner, les changements de régime obtenus par la violence d'une puissance étrangère ces dernières années ont rarement, voire jamais, abouti à la survenue d'un régime plus acceptable.
Ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionne pas comme ça. À chaque fois que nous avons essayé, je dis nous, en nous incluant la France évidemment là-dedans, ça n'a donné que des échecs, que des défaites cuisantes et que des situations encore plus chaotiques qu'auparavant. Donc ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucune raison pour qu'avec un pays qui a une histoire millénaire, qui a une profondeur considérable comme l'Iran, ça puisse fonctionner. C'est absurde. Et les Israéliens se sont engagés déjà avec Gaza évidemment, mais plus largement dans une fuite en avant, sans objectif politique, sans vision politique pour la région, dans une sorte de délire de vengeance, ivre de puissance, parce qu'il est incontestable que Israël aujourd'hui est en état de suprématie militaire, qui est incontesté dans la région, pour le coup c'est une évidence aujourd'hui. Cette fuite en avant ne donnera absolument rien de bon. Donc il faut, et la France en prend toute sa part, je vous renvoie aux propos du président de la République hier depuis le Canada, la France et l'ensemble des parties prenantes, et surtout les Israéliens et les Iraniens, doivent revenir à la table des négociations. On n'obtiendra absolument rien de bon par des interventions de ce type. On n'obtiendra qu'une situation encore plus chaotique qu'avant. Et vraiment, la région, le Moyen-Orient, n'a absolument pas besoin de ça en ce moment.
Vous évoquiez les propos d'Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter ceux de Donald Trump. Le président, oui. Emmanuel Macron, pour se faire de la publicité, a dit par erreur que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington pour travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu, c'est beaucoup plus gros que ça. Volontairement ou pas, Emmanuel Macron ne comprend jamais rien, ce sont des mots du président des États-Unis. Cette violence dans le propos, est-ce inquiétant ?
Bon, c'est inquiétant, oui, bien sûr que ça l'est, mais ça n'est pas inédit. C'est pas la première fois que Donald Trump a des propos déplacés, a des propos malveillants, a des intentions aussi malveillantes et se comporte de façon malveillante. Rappelons-nous de cette séquence absolument hallucinante dans le bureau ovale avec le président ukrainien qu'il pensait, qu'il admonestait devant les caméras du monde entier.
Et avec le vice-président Vance, oui.
Absolument. Donc, ça n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Il faut s'habituer à ce genre de saillie. Bon, moi, j'interprète ça comme un coup de menton, enfin une petite pique après le déplacement de d'Emmanuel Macron au Groenland en soutien au Premier ministre du Groenland et au Danemark évidemment, et en rappelant que le Groenland, comme le Canada d'ailleurs, comme les fonds marins, ne sont pas à vendre et qu'on ne peut pas impunément, même quand on est président des États-Unis, déclarer qu'on a envie de s'emparer de tel ou tel État souverain. Ça n'a pas de sens. Et donc, je crois que le président Trump a tout simplement réagi à la manière qui lui sied, à la fois cette déclaration et au déplacement du président français, qui d'ailleurs même se référait très clairement à Donald Trump et à ses propos sur le Groenland lorsqu'il y est allé.
Karim Amellal, je rappelle que vous venez de quitter votre mission d'ambassadeur de France pour la Méditerranée. Est-ce que vous craignez que cette guerre entre l'Iran et Israël éclipse la situation de plus en plus catastrophique encore dans la bande de Gaza ?
Oui, je le crains. Enfin, je le crains. Là encore, pas simplement à cause de cette intervention ou du fait de cette intervention. Je le crains parce qu'il y a un effet de lassitude, parce qu'il y a une sorte de, malheureusement, et c'est tragique de le dire, de normalisation du conflit qui s'établit dans un certain nombre de consciences, en particulier dans les pays occidentaux. Et comme on s'habitue à tout, on s'habitue à cette guerre et on s'habitue à ce qui est, je le dis très franchement, je n'ai plus de devoir de réserve en la matière, à ce qui est un génocide. Et c'est terrible de s'habituer à ce genre de choses. Donc bien sûr que cette intervention que mène Israël aujourd'hui en Iran, eh bien, va détourner les regards de ce qu'il se passe, de cette tragédie humanitaire dont les Israéliens sont responsables, après le massacre terrible du 7 octobre, mais enfin dont ils sont responsables de façon tout à fait indiscutable, en Palestine, à Gaza en particulier, à Gaza et en Cisjordanie, parce que n'oublions pas non plus la Cisjordanie qui souffre aussi beaucoup.
Et vous parlez aujourd'hui de génocide. Je crois que c'est une première venant de votre part. C'est un mot que vous ne pouviez pas utiliser lorsque vous étiez ambassadeur de la France pour la Méditerranée.
Non, parce que ce ne sont pas les propos de la France, parce que ça ne correspond pas aux déclarations officielles ni du président ni du ministre des Affaires étrangères. C'est mon opinion personnelle que je suis aujourd'hui en mesure de. On peut pas dire n'importe quoi quand on est ambassadeur de France. On doit évidemment représenter son pays et s'inscrire dans le cadre des propos, des déclarations, de la politique qui est conduite. C'est tout à fait normal en France comme dans n'importe quel autre pays du monde. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Bon, j'ai quitté mes fonctions. Je suis de nouveau un homme libre, en tout cas libéré de ce devoir de réserve. Et oui, je considère évidemment que c'est un génocide. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Je me réfère aux propos même de ceux qui sont en train de mener les opérations militaires, qui font partie du gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui ont parlé d'éradication, de nettoyage ethnique, dont les intentions me paraissent, peut-être que je me trompe, peut-être que l'histoire dira qu'il n'en a pas été ainsi et que ça n'est pas un génocide, ce n'est pas à moi de le dire, c'est une qualification génocide, mais il m'apparaît en tout cas aujourd'hui que c'est ce qu'il est en train de se passer et que les mots ayant un sens et permettant de décrire les choses, de dire les choses comme elles sont, pour éviter si possible qu'elles ne se reproduisent, ce qu'il est en train de se passer s'apparente pour moi, oui, à une opération génocidaire.
Karim Amelal, vous avez accueilli la semaine dernière à Nice, vous étiez encore ambassadeur, lors de la journée méditerranéenne à l'occasion du sommet pour les océans, l'ambassadrice de Palestine en France, Alaa Bouassira, ainsi que l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour. Quelle a été la tenue de vos échanges sur la situation dans les territoires palestiniens ?
On se connaît depuis longtemps avec Alaa Bouassira, et on ne se connaissait pas avec Riyad Mansour, mais j'étais très très honoré, très ému même de le recevoir à Nice et pendant cette journée la Méditerranée. On a fait en sorte d'ailleurs qu'il puisse y avoir un échange avec notre ministre des Affaires étrangères, en perspective précisément de la conférence qui aurait dû se dérouler en ce moment même aux Nations Unies à New York sur la Palestine.
Co-présidée par Paris et Riyad, elle a été reportée à cause de la guerre entre Israël et l'Iran.
Absolument. Mais j'étais très heureux de les accueillir à cette occasion. Et bien sûr, nous avons échangé sur le drame que connaissent les Palestiniens et surtout sur la perspective politique, parce que nous en sommes tous là. Nous souhaitons tous sortir de ce qui est une impasse, de cette fuite en avant et de ce délire meurtrier et vengeur des Israéliens. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'Israéliens, il y en a beaucoup qui se sont succédés à Paris ces dernières semaines. Hein. Je pense à Ehud Olmert, par exemple, l'ancien premier ministre d'Israël. Il y en a beaucoup qui sont en train d'ouvrir les yeux, qui parfois les ont ouverts depuis plus longtemps, et qui réalisent qui est en train de se passer, qui est tragique évidemment pour les Palestiniens, mais je crois profondément que c'est tragique aussi pour les Israéliens. Il ne peut pas y avoir de d'issue positive à une fuite en avant de cette nature-là. On ne se remet pas et malheureusement l'histoire nous enseigne que les Israéliens, hélas pour beaucoup d'entre eux, en ont été les victimes terribles. On ne se remet pas de ce genre de choses. Et donc, il est urgent pour nous tous, Israéliens, Palestiniens, Occidentaux, Arabes, que nous puissions sortir de cette impasse, trouver une solution, remettre à la table des négociations. Cette conférence sur la Palestine était une occasion. Je crois que, et le président de la République, je le sais, est déterminé à aller vers la reconnaissance, vraiment. Je crois que, bon, ce n'est que partie remise pour le dire trivialement, mais en tout cas, elle aura lieu. Il faut qu'elle ait lieu et il faut qu'elle soit l'occasion de définir un chemin politique, une solution politique, en tout cas de sortir de ces atrocités.
Merci Karim Amelal. Vous êtes ancien ambassadeur de la France pour la Méditerranée. Vous êtes aussi écrivain, maître de conférences à Sciences Po Paris. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Pluriel.